Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Aujourd'hui, un épisode spécialement dédié à la nuit du hack avec les deux Nico de Nos Limites Sécu et Jeff.
Bon bah ici Jeff, moi la nuit du hack c'était une première. Moi j'ai débarqué à Disney assez tôt le matin, hein. J'ai fait l'entrée. J'ai un peu galéré pour trouver où c'était. Mais en fait j'ai suivi les geeks et c'était vraiment ça, en sortie du RER, tu repérais un peu les mecs et tu voyais typiquement les mecs qui allaient à la nuit du hack versus les familles qui allaient direction Disneyland.
Attends,
voilà, une bonne première et assez sympathique.
Attends, t'es en train de dire qu'il y a un profil spécifique des gens qui vont à la nuit du hack ? Je vois pas ce que tu veux dire.
Ouais, il y a un profil, hein, clairement. Tu sors du RER et tu vois clairement ceux qui vont faire le profil de geek versus celui qui va à Disney. Effectivement, c'est un peu stéréotypé, mais c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est quand même nuit du hack, bon, c'est très masculin. Assez peu de nanas. Très bon enfant et très bonne ambiance.
Et Nico, t'as pas l'air d'avoir le même avis sur la proportion féminine et sur la nuit du hack globalement, t'en penses quoi ?
Ah bah moi j'ai été très surpris de voir qu'il y avait quand même une proportion féminine beaucoup plus importante que dans d'autres confs de sécu françaises. Et je pense que les gens sont venus avec leurs copines, mais bon, c'est quand même des geeks avec copines, c'est assez rare pour être signalé.
Ou que la dame geek est venue avec son copain au passage.
Voilà, oui, ça existe aussi, effectivement.
Ça existe aussi. Bon, mais alors globalement, la nuit du hack, donc comme j'ai déjà dit, j'y étais pas. Mais il se passe quoi ? Parce que, à part donc arriver à la sortie du RER, qu'est-ce qui se passe là-dedans ?
Alors en fait, la nuit du hack, c'est pas que la nuit, quoi. C'est la journée plus la nuit. Et c'est le premier point. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai trouvé le format assez sympathique, c'est que t'as les confs. Hein, mais en fait, c'est assez atypique dans le sens où t'as une grande salle, hein, t'as bien évidemment les chaises pour se poser avec l'estrade où t'as les speakers qui débarquent, mais à côté t'as les stands des sponsors et au fond c'est un peu les tables de banquet où t'as tout le monde qui avec son PC qui hack et t'as un brouhaha permanent pendant que le mec il fait sa conf. Hein. Et ça c'est assez particulier parce que d'habitude quand t'arrives dans les confs classiques entre guillemets, c'est silence, tout le monde est assis, il y a plus personne sur les stands des sponsors et tout le monde est écoute bien sage. Et là c'est pas du tout un peu cette ambiance et en ça c'est aussi quelque chose qui change quoi.
Ah c'est assez intéressant. Et un truc tu disais, il y a du brouhaha, mais il y a combien de personnes à peu près ?
Plus de 1000.
Plus de 1000.
Ah oui, c'est plusieurs centaines, je ne sais pas exactement, mais c'est vraiment impressionnant parce que là, tu parles de la salle principale, mais après, il y a encore les petites salles autour avec des ateliers. Cette année, ils ont fait venir des élèves de collège pour leur apprendre l'électronique. Enfin, c'est vraiment la fourmilière, hein. Tu t'ennuies pas.
Ah, c'est un gros truc quand même.
C'est un gros truc. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi sympathique, c'était dans ces ateliers, il y avait des choses aussi faites pour les enfants. C'est amener vos enfants. Pour que qu'ils puissent découvrir ce que c'est la philosophie hacker, hein, ça bidouille, hein, et ça aussi ça change quoi. C'est pas uniquement pour les grands. Et donc il y a cet esprit culture qui est différent au moins que moi j'ai découvert dans cette conférence, qui j'ai trouvé assez sympathique.
Ok, je note. Alors justement conférence, parlons un peu des conférences. Il y avait quoi d'intéressant cette année ?
Sur les conférences, moi ce que j'ai bien aimé, c'est une première conférence en démarrage de Jason Street de Krypton Security qui était pas du tout technique, hein, qui était plutôt sur le côté une personne qui voyageait pas mal, hein, et il avait fait un peu la tournée des popotes dans le monde, dans différents pays, et il demandait un peu aux personnes qu'il rencontrait, qui étaient bien évidemment dans la sécurité, quel est le feedback, ça veut dire quoi hacker en local. Et en fait, son feedback, c'était que qui dit hacker dit mauvais. On a une mauvaise image. C'était très associé aux criminels, cybercriminels. Et ça, c'est un peu une étiquette qui dessert un peu cette communauté, alors qu'on est plutôt là, plutôt pour le bon. Hein. Bon, il y a bien évidemment des mauvais, mais on est plutôt pour faire avancer les choses dans la bonne direction. Et qu'il était important qu'on communique sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, Et il prenait notamment l'exemple de Dan Kaminski, qui avait fait pas mal en termes de communication, pour montrer que ouais, ça bidouille, ça change, on voit les choses un peu différemment, mais on n'est là pas pour hacker dans le mauvais sens du terme, mais on est là pour bidouiller. Et la keynote de Benjamin Bayard était aussi un peu dans ce sens-là. Au démarrage, bon, c'est Benjamin, hein, donc on va pas le refaire. Mais intéressant aussi dans cette approche bidouille, voir les choses du côté positif. Et aussi Benjamin disait quelque chose d'intéressant dans le sens où les hackers sont un peu les vigies, dans le sens où on doit être vigilant sur ce que font les éditeurs, les fournisseurs de services, pour leur dire, il y a tout le temps un gars qui va regarder un peu les choses sous un angle un peu différent. Donc attention. Et donc c'est en ça que c'est utile à la société. Donc ça, j'ai trouvé cette conf intéressante. Elle est pas technique, mais j'ai trouvé voilà l'esprit est quelque chose d'important et à conserver en tête, et un message aussi à passer aux personnes qu'on peut rencontrer ou dans les façons de communiquer x ou y quand on en a l'occasion.
C'est rigolo parce que en fait moi j'avais l'impression avant ça que maintenant le hacker c'est pas forcément un gars mauvais, c'était un peu un discours tarte à la crème, mais effectivement j'ai pas entendu parler de la présentation d'introduction, mais je pensais plus maintenant que les gens avaient toujours cette vision les hackers c'est les gens mauvais, etc. Donc ça peut être assez intéressant effectivement.
Ouais, ça tu le vois quand même, tu le vois dans le langage courant, hein, les gens ils disent je me suis fait hacker mon compte en banque, ils disent pas j'ai hacké ma bagnole quand ils ont réussi à changer la batterie. Donc le verbe hacker est quand même associé à une image négative. Enfin en tout cas en France c'est la perception que j'en ai, quoi.
Ouais c'est vrai. Et c'est incroyable parce que ça fait 15 ans que ça tourne et que faudrait que les mentalités les changent et voilà. Bon bah c'est encore un fail quoi.
Et la sécurité qui est
un échec c'est ça.
Me lance pas là-dessus.
Non non.
Non, mais ce qui est rigolo, c'est que les vrais méchants, ils s'appellent pas hackers. Enfin, je veux dire, ils font leur business dans leur coin, etc. Mais il y en a aucun qui s'amuse à mettre des t-shirts rigolos et des chapeaux noirs pour faire peur, quoi.
C'est dommage. Attends, j'ai vu l'affaire Espadon et je t'assure, ils sont habillés bizarres. Bref. Ok, donc ça, c'était la conf d'intro et la conf de Benjamin Bayard. Autre chose comme conf?
Moi, j'ai bien aimé les confs assez hardware. Le démontage d'une set-top box fibre avec ça démontait ou ça fait du dump de firmware, c'était assez ouais, j'ai trouvé ça aussi intéressant le côté hardware qui était présenté au niveau des différentes confs, hein. À contrario il y avait des choses assez classiques entre guillemets qui étaient pure software, et donc le côté ouais Virtual Labs là sur j'ouvre les tripes d'une box fibre, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai pas vu le soir tout ce qui se faisait sur tout ce qui est Arduino et compagnie, même si c'est classique, mais ça montre bien aussi un peu la tendance, le côté la bidouille, il n'y a pas que le soft. Entre guillemets, ce que beaucoup de personnes pensent que bah tiens, il n'y a que le soft. Non, il y a le côté hardware. Et j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ça changeait, quoi.
Ouais, c'est
et ça restait accessible en fait.
Ils ont beaucoup d'espace, donc ils peuvent déballer du matériel, ils peuvent installer des tables, etc. Et c'est clair que, bah, par exemple, le badge de la conférence, c'est un Arduino, il y a un programme dessus, et si tu le hacks, tu gagnes ton entrée à vie pour la conf. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'a toujours pas été hacké. L'année dernière, pardon, ça avait mis une semaine avant que le challenge soit résolu. Et là, cette année, on attend.
Ok.
Et c'est vrai qu'il y a un stand de modification de console, il y a un stand de lockpicking, il y a un stand de montage de, soudure, montage d'Arduino. Donc c'est clair qu'il y a plus de hardware que dans la plupart des confs. Après, si tu compares avec des confs américaines comme DEF CON ou autres, c'est à peu près la même idée, quoi. Mais c'est pas pareil que les confs où tu loues une salle, tu as des chaises et les gens restent assis et voilà, quoi.
Okay. Ouais, ça a incité plus à mettre la main dans le cambouis ou voilà. Et puis j'ai trouvé les gens assez, c'était bon enfant, c'était même dans la façon de parler, la façon d'organiser, c'était pas très sérieux, c'était pas du tout sérieux. Et ça aussi, ça changeait. Voilà, l'ambiance était Voilà, ce petit plus sympathique qui fait que tu te sens, t'as une certaine proximité entre guillemets, t'es moins guin, c'est pas trop guindé. Après, dans les confs qui étaient aussi, j'ai trouvé plutôt pas mal. Où j'ai bien, je sais pas si tu l'as vu, Nico, celle-là sur tout ce qui est le hacking de vieilles bornes de jeux d'arcade.
Ouais,
ça, j'ai trouvé ça super sympa.
Je l'ai pas vu la nuit du hack, mais je l'avais déjà vu ailleurs, ouais.
Et je me souviens plus du nom de la personne qui présentait ça. Tu sentais que tu avais un passionné devant toi.
Il
parlait de son truc. C'était waouh, c'était assez excellent. Et le feedback qui ressort, c'est que je sais plus c'était quoi comme c'est des CPS1 de je sais plus qui, de chez Capcom, non, je sais plus
ouais,
de.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Et ben, c'était d'une protection, d'un niveau en termes de protection extrêmement fort. Et en fait, ils ont réussi à copier les jeux parce qu'il y a eu des erreurs de fait au niveau de l'éditeur, de façon assez classique. Mais le design de la protection était extrêmement bien fait, quoi. Mais tu sens le speaker était top parce qu'il était passionné. Et il avait un nombre d'exemples et compagnie. Et tu revoyais tes vieux jeux il y a des années, et t'avais le petit côté nostalgique qui était vraiment super sympa.
Ouais, ce qui est génial dans cette conf, c'est que les protections sont à base de piles. Donc, si tu démontes la borne et que tu enlèves la pile, en fait, tu perds tout. Et comme les piles se vident, il y a bientôt des bornes d'arcade des années 90 qui seront introuvables. Elles seront toutes mortes. Donc, il y a une course contre la montre pour craquer la protection et réussir à sauver ces bornes avant que toutes les piles soient mortes. Et là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler du hacking, quoi. Dans le sens noble du terme.
Mmh. Voilà, il appelait ça les batteries suicides. Mmh. Et en fait, la batterie était faite là. Il y a une batterie, comme le dit Nico, qui gardait en vie les données dans la RAM. Et au bout d'un certain nombre d'années, paf, plus de piles, paf, les données de la RAM étaient effacées. Bah, tu pouvais mettre ta bande d'arcade à la poubelle. Bon, c'est quand même assez barré hein, comme protection. Il faut quand même être fou furieux. Et là, il y a une bonne raison, et effectivement, alors je me rappelle plus encore du nom, mais il nous montrait aussi une animation. C'était il nous disait, Wolfenstein 3D, c'est pas le premier FPS qui existait. Il nous montrait un autre truc, c'était assez moche, mais il nous disait, ça c'est le premier jeu, le premier FPS qui a existé, et effectivement, ça fait partie du patrimoine qu'il faut sauvegarder, et pour le sauvegarder, il faut hacker. Et puis j'ai bien aimé aussi tout le temps sur je l'ai pas complètement tout suivi ce qu'ils nous racontaient, mais c'était ce que j'avais compris, c'est qu'ils arrivaient à sortir, à extraire le firmware de ces consoles en utilisant je sais plus quel port, c'était un port joystick et avec beaucoup de manipulation en manuel et tout, c'était quand même le truc assez barré, quoi. Mais comme quoi, en fait, pas mal de créativité pour arriver à arriver à extraire tout le programme et tout. J'ai trouvé ça assez sympathique. Et puis, j'ai bien aimé aussi la présentation qui a été faite par le mec de Deloitte, là, Marc Nim Richter, sur son système de protection contre tout ce qui est buffer overflow, enfin tout ce qui est écrasement des pointeurs de IP là dans la stack qui est utilisé sur tout ce qui est buffer overflow et ainsi de suite, qui a fait un bon rappel, une bonne synthèse de comment ça fonctionnait entre buffer overflow, stack overflow et compagnie. C'est assez synthétique, plutôt compréhensible, et puis sa technique de lancer deux process en même temps, avec un moniteur qui supervise les différents appels système pour voir s'il y a une déviation au niveau d'un process et pas de l'autre, et donc si c'est le cas, boum, tout le monde à la poubelle. Bon, après on se pose la question de comment ça fonctionne et quel perf ça veut dire, mais l'approche, j'ai trouvé les explications plutôt claires et assez intéressantes, accessibles. Bon, où j'étais un peu plus perdu, mais par contre assez bluffant, c'est la présentation au niveau de l'extraction de tout ce qui est clé publique dans les clés VGIC là, pour rentrer dans les halls. Là, c'était un peu plus velu, mais tu te dis waouh, ça veut dire que tous ces systèmes de cartes RFID, même avec des systèmes de signature à clé RSA, bah, c'est pas aussi costaud que ça. Et donc là, ça pose un certain nombre de questions.
Ouais, là, c'est encore excuse-moi, vas-y.
Cette présentation, elle avait déjà été faite dans une autre conférence parisienne, exactement avant. Et bon, c'est juste des maths, mais. Enfin, je veux dire, les maths sont compliquées, mais à la fin, ce que ça dit, c'est que tu peux récupérer la clé publique, même si tu n'as pas la spec. Parce que le problème de Vigic, c'est qu'au début, les specs étaient assez ouvertes. Hein. Moi, j'ai failli les acheter à l'époque où ça se vendait 500 francs. Mais petit à petit, le système s'est refermé et maintenant, tu as quelques intégrateurs de confiance qui travaillent avec la poste là-dessus. Mais ça reste quand même assez opaque, en particulier sur tous les codes, tous les bypass que tu peux avoir. Déjà, tu as des codes pour la police, les pompiers, etc. Mais qu'est-ce que tu as comme bypass supplémentaire? Pourquoi la clé maître a été révoquée déjà une fois? Enfin, je pense que le Vigic, c'est un peu comme le monde de la carte à puce, ça vit sur la sécurité par l'obscurité.
Ouais, par une certaine discrétion, au moins. Ouais, et, ouais. Juste un truc, parce que là, vous m'avez perdu. Donc finalement, elle consiste en quoi l'attaque? On fait sortir quoi et comment?
En fait, l'attaque, c'est que tu viens à ton boîtier Vigic, enfin plutôt à ta tête de lecture Vigic, et t'enregistres un certain nombre de passages de badge. Et à partir de là, si tu sais que l'algo, c'est du je sais plus quoi, enfin c'est un algo de signature RSA assez classique, tu peux retrouver la clé publique. Bon, ce qui n'est pas. Non, public.
Public, d'accord.
Si tu as la clé privée, c'est fini, là, tu peux changer tout le système.
Bah,
les portes de Paris s'ouvrent.
D'accord. Mais l'idée,
le problème, c'est que même avoir la clé publique, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, la spec n'est pas diffusée comme ça à tout le monde. Quoi. Il n'y a que quelques-uns gros intégrateurs, je pense à CDVI ou des Noralski, des gens comme ça, qui fabriquent du matos, mais c'est entre gens de bonne compagnie. Quoi.
Ok, et donc l'objectif, c'était de créer des systèmes compliant ou au moins savoir ce que c'est.
L'objectif. Comme tout le temps dans le hacking, c'est d'ouvrir les systèmes qui sont fermés.
Ok, ça me va. Mais alors justement, une petite réaction perso, c'est juste... Enfin, j'ai l'impression que la nuit du hack, c'est une conf de hacking plus qu'une conf de sécurité. C'est pas que de la sécu. C'est-à-dire que, enfin, ouvrir les bornes, il y a vraiment un aspect qui dépasse la sécu. Entre guillemets.
Ouais, c'est pas du tout de la sécu. Hein. Enfin, de mon point de vue, hein, je veux dire, c'est vraiment du bricolage, des gens qui s'intéressent, etc. Mais si tu compares avec les autres confs dites de sécurité, en général, dans les autres confs, c'est on va attaquer des produits commerciaux, on va aller sur, je sais pas. Ouais, en général, ça consiste à trouver des failles dans des implémentations. Alors que ça peut être du Windows, ça peut être de l'Apple, ça peut être n'importe quoi. Tu as trouvé une faille dans un truc astucieuse et tu viens la présenter. Mais il y a toujours un petit côté quand même. Tu sens que derrière, c'est de l'industrie, c'est du logiciel commercial, c'est des consultants qui viennent, ou des consultants ou des chercheurs, entre guillemets, mais qui sont dans le circuit professionnel. Alors que la nuit du hack, il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la moyenne d'âge est quand même beaucoup moins élevée. Il y a encore beaucoup de gens qui sont étudiants et qui hackent pour le fun et qui hackent des fois des trucs qui servent à rien, tu vois, des consoles des années 90 ou des choses comme ça, quoi.
Mais alors, juste un truc, c'était pas du tout négatif ce que je disais, hein, mais c'est vrai que on sent que oui, la sécurité, c'est pas forcément le truc le plus important dans la conf. Enfin, c'est à vous entendre, c'est le sentiment que j'ai. Et justement, vous parliez aussi de ce qui se passe hors les confs, à moins que vous ayez encore une ou deux confs dont vous tenez à parler.
Moi, je te dirais sur la nuit du hack, le but de la nuit du hack, c'est pas de protéger le CAC 40, le but, c'est de se faire plaisir. C'est vraiment une conf de passionnés, quoi.
Ok.
Et une conf aussi, et je rejoins Nico, c'est et une autre conf que j'ai trouvée excellente, parce que les deux mecs, ils étaient top. C'était un Hongrois et un Marocain. Et c'était take care of your input. Et les mecs, en fait, ils disaient bon alors, nous, ça va être zéro technique, zéro buffer overflow. Il n'y a pas d'informatique. Alors on n'a rien. On fait mais qu'est-ce que vous nous racontez? Et en fait, ils t'expliquent. Là, ils disent nos outils principaux, c'est regardez, c'est nos mains. Alors tu leur dis ce qu'ils nous racontent. Et les mecs, ils t'expliquent comment ils arrivent à prendre la main sur tout ce qui est kiosque, borne de paiement. Bande de distribution de tickets simplement en jouant avec avec les écrans tactiles en termes de race conditions et compagnie. Et c'est tout à fait. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était excellent. C'était excellent. Ils arrivaient à rentrer sur. Ils sont arrivés à rentrer sur. Bon, mis à part, enfin, bien sûr, des DAB, mais aussi sur les des systèmes de tickets, de distribution de tickets. Ça avait l'air du train ou SNCF, RATP. Des trucs sur tout ce qui est distribution des distributeurs de tickets de cinéma, de Autolib aussi, plein de trucs, hein, mais simplement en jouant avec les écrans tactiles et un tout petit peu de social engineering de temps en temps. Et ça, voilà, je rejoins Nico, ça change complètement de ce qu'on peut voir par ailleurs dans j'ai trouvé la faille dans tel produit ou dans telle technologie de tel vendeur. En ça, c'est vraiment penser différemment et regarder le système sous un autre angle. Et ça, c'est effectivement très fun. Et oui, la moyenne d'âge était beaucoup d'étudiants. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de dans les sponsors d'écoles spécialisées qui étaient là pour dire « Ah, j'ai le super cursus de formation et compagnie. » Bien évidemment, on avait l'ANSI hein, qui était là. Et qui faisait son recrutement comme d'habitude. Hein. Alors, tu les vois partout à chaque fois. C'est simple. Hein.
S'ils recrutent. Hein.
Ah, bien sûr. mais voilà, ça, c'était mais beaucoup plus jeune que d'habitude.
Oui, mais ça, alors, tu fais bien d'en parler parce que, effectivement, s'il y a bien deux trucs qu'on peut dire en dehors des confs, c'est un, il y avait énormément de recrutement. Il n'y avait pas un stand de... Ouais. Je crois pas qu'il y avait un stand avec un gars qui essayait de te vendre quelque chose. Si, peut-être la solution de chiffrement kazakh, mais globalement, tous les stands, ils étaient là pour recruter. Les ouais. cabinets de conseil, l'ANSI avait deux stands. Ils avaient dans deux salles différentes, ils avaient mis un stand. Et ouais, le deuxième truc qui aussi m'a un peu surpris, c'est la quantité de challenge et de hackathon, entre guillemets, ouais. dans le mauvais sens du terme, là, pour le coup. Où en gros sur chaque stand c'était péter notre techno, on vous donne de l'argent, on vous donne des bounties, des vrais bounties, hein, on vous donne des bonbons, etc. Mais voilà, vous pouvez tester notre techno à tel endroit, vous pouvez jouer sur telle URL, etc. Et il y en avait quelques-uns qui quand même, enfin, c'était à la limite du hackathon, enfin du bug bounty, et à la limite de l'audit professionnel qui faisait réaliser gratos par des étudiants, enfin gratos ou pour une bouchée de pain, quoi.
Ouais, enfin, tout à fait, c'est vrai.
Un petit peu limite, ça.
J'ai vu ça passer sur Twitter. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'en est offusqué. Je nommerai pas la personne en question, mais il y a quelqu'un qui a fait, ce serait bien que on arrête d'appeler hackathon un truc qui est en fait du travail gratuit. C'était pas à propos de la nuit du hack, mais j'ai l'impression que c'est une pratique qui a tendance à se répandre.
Il y a un Tumblr pour ça, hein. Je sais plus comment il s'appelle, Hackathon Mathieu ou un truc comme ça, où effectivement tu vois des entreprises du CAC 40, on va pas les citer, mais oui, on organise un hackathon pour refaire notre système de gestion des congés, vous codez pendant 48 heures, enfin tu vois, quand c'est une banque, d'accord. Ça fait un peu mal aux fesses, quoi.
Voilà, mais ces gens-là ont pas de sous, c'est mort.
Bon, mais d'un autre côté, moi j'ai trouvé que l'une des sociétés qui avait lancé ça, c'est quand même assez osé, quoi. Parce que tu te dis, bon, alors, et en plus, visiblement, ils mettaient en pâture carrément leur site, hein. Version mobile, version pas mobile. Bon, t'avais pas le droit de toucher au site relations de presse et blog. Mais c'était leur site de production. Et c'est les gars, allez-y, lâchez-vous. Et il y a, je sais plus, 4000 euros à gagner. Tu te dis, ouais, pas mal. J'ai trouvé ça osé dans l'approche, quoi. C'est assez rare, c'est assez rare, quoi. Plus souvent, ils mettent en pâture un truc, voilà, qui est peut-être symbolique ou qui a été monté spécifiquement pour. Et en ça, j'ai trouvé ça que c'était assez marrant, assez osé.
Ouais, mais
très inhabituel.
Pour 4000 euros, en fait, le résultat du challenge, c'est qu'ils ont quand même corrigé énormément de failles dans leur site, dont certaines qui étaient quand même assez critiques. Et les 4000 euros, je sais même pas s'ils les ont dépensés en entier. Donc, le ratio... argent investi sur résultat est vraiment très bon pour eux. Et il me semble que, à l'EPITA, il n'y a pas un truc genre les Security Quest ou un truc comme ça. Il me semble que c'est eux qui organisent ça et tu peux, en tant qu'entreprise, tu peux candidater. Et pendant 6 mois, tu as toute une promo de l'EPITA qui te fait un pentest gratuit, quoi. C'est-à-dire que tu dois cacher un fichier dans ton SI d'entreprise. Et ensuite, tu dis go. Et les gars, ils ont 6 mois pour trouver le fichier de l'extérieur en venant par Internet, quoi. Autant dire. Je ne sais pas s'ils ont continué parce que je crois qu'il y a eu quelques abus et que ça a dégénéré. Mais là, pour le coup, c'était assez audacieux comme approche. Hein.
T'as une horde de zombies qui débarquent sur ton système d'information pendant 6 mois. Remarque, au moins, tu sors de ça. Des équipes, si t'avais des équipes en charge de la sécurité qui manquaient un peu d'entraînement, qui s'étaient un peu empâtées, là, c'est l'occasion de faire un peu d'exercice. Et puis moi aussi, ouais, dans les trucs fun, j'ai trouvé que toi, les participants, on avait le droit à un badge. Et sur les badges, si tu étais participant tout simple, tu avais un truc marqué zombie. C'était bon, tu es là pour regarder, tu es un zombie. Mais c'était vraiment voilà, le côté fun. C'est vraiment le point que j'en retirerais. Et vraiment sympa, et ce sera avec grand plaisir que j'y retourne encore une fois parce que voilà, tu ressors avec des choses, tu as appris des choses, et puis voilà, c'était cool, ça se prenait pas au sérieux.
Ok, et donc, ouais, à part les conférences, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait aussi d'autres choses, des stands, des machins, et il se passe quoi enfin dans les stands? Moi j'ai vu un truc sur internet, il y a un truc où on hack et on picole, et il y avait d'autres trucs comme ça, c'est quoi cette affaire?
Voilà, c'est Nico qui va te dire.
Ah, c'est parce que c'est Nico qui hack, c'est ça ou
Ouais, il faut venir à deux, il y en a un qui hack et un qui picole.
Ça le fait. Je veux bien picoler si vous voulez.
Ouais, mais ils avaient essayé ça cette année, mais je crois que ça s'était déjà fait dans une autre conf. Je me demande si c'est pas la conf d'Immunity là, à Miami. Bon, je vais peut-être te dire une bêtise. Mais bon, j'ai été voir, mais j'ai pas participé. Je crois que l'idée, c'est que en gros. T'audites une application et tu dois faire un code d'exploitation qui marche du premier coup. Et si ça marche pas du premier coup, tu picoles et t'as le droit à un deuxième essai, etc. Alors après,
ah ouais,
ce que
d'accord.
J'ai vu sur Internet, c'est qu'il y a un gars qui a résolu 98% du challenge. Et donc, il cherchait à savoir qui c'était et comment il s'appelait. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je sais pas s'il a terminé la bouteille et que du coup, après, il était tranquille pour hacker, mais bon. Visiblement, il y a des gens à qui ça a bien plu comme concept.
Bah, culturellement, c'est intéressant, c'est un peu borderline, mais je trouve ça assez marrant. Bon, après, bien sûr, tout ça, c'est ne pas abuser, machin, et raisonnablement. Même
Ouais.
si c'est pas toujours évident. Et donc, voilà, il y avait ça, il y avait d'autres stands, et puis il y avait d'autres événements aussi. Il y a des événements à côté, des trucs marrants.
Bah, ce qui est marrant aussi, c'est de voir les gens, hein, quand même. Le fond des conférences, c'est quand même de se réunir et de discuter et de picoler. Enfin, picoler entre guillemets, puisque l'abus d'alcool, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des tables de baby-foot, il y avait des activités comme ça, juste pour socialiser, quoi.
Ok.
Il y avait même une boîte de nuit.
Ah ouais, mais ça c'est la fameuse crash party, c'est ça?
Tout à fait.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon. Eh ben, vous avez carrément rassasié ma curiosité, des choses à rajouter peut-être?
Non, bah, c'est très bon cru. Et puis, ah oui, petite anecdote, ce qui était assez sympa, c'est comment ça a commencé la nuit du hack, hein? Et ben, c'était dit à l'introduction. En introduction, en fait, tout a commencé dans un cybercafé, visiblement avec 50 fondus, et ça doit être la 12e édition. Et quand tu regardes ce que ça a pu devenir entre 50 fondus dans un cybercafé et, je sais pas, plus de 1000 personnes, grosso modo, 12 ans après, bravo. Et donc ça veut dire que voilà la bidouille française, hein, parce que le terme hacker est peut-être pas très adapté, est bien vivante, et tant mieux.
Eh ben, je propose que ce soit le mot de la fin. Donc, ben, bye bye à tous, et puis à bientôt pour un prochain numéro.
À
Ciao,
bientôt.
Ciao, ciao.
merci les garçons, salut.
Salut.